Société Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des médecines alternatives avec le docteur Meyer Sabah, qui est médecin généraliste à orientation spécifique en acupuncture, mésothérapie et homéopathie. Il est président de Polmost, et le docteur Alain Collongeon, qui est médecin généraliste à orientation spécifique en phytothérapie et homéopathie. Il est secrétaire général de ce même Polmost. Et nous terminerons en parlant du rôle que joue l'entourage des personnes malades. Nous avons au téléphone le professeur Michel Périgaud, qui est spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Professeur Périgaud, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Tout d'abord, je vous dirais que, qu'est-ce que vous pensez de ces médecines alternatives?
Moi je pense que c'est des techniques thérapeutiques qui sont efficaces pour le traitement d'un certain nombre de troubles fonctionnels, et même des troubles fonctionnels qui font partie des maladies organiques, et même des maladies organiques graves.
Par exemple ?
Par exemple, des douleurs dans les pathologies cancéreuses qui sont parfois très bien améliorées avec des techniques thérapeutiques. Au moins une que je connais très bien, c'est la mésothérapie qui existe dans mon service à l'hôpital. Et une étude a été faite en réanimation chez les malades cancéreux et qui a parfaitement prouvé l'efficacité de la mésothérapie qui permettait de réduire de façon non négligeable les drogues qui étaient utilisées par ailleurs.
Donc pour vous, j'imagine que ces médecines ont leur place à l'hôpital. On a pourtant l'impression que l'hôpital est plutôt réticent, les médecins hospitaliers plutôt réticents à l'entrée de ces médecines dites alternatives.
Oui, ça c'est vrai. L'hôpital public est un ensemble qui soigne énormément de malades. Et dans certaines pathologies extrêmement graves, c'est plutôt la médecine de preuve qui est d'ailleurs est exigée pour la carrière hospitalière, faut bien le dire. Mais dans presque tous les hôpitaux, il y a une utilisation assez large de médecines à effet thérapeutique et qui ne sont pas des médecines de preuve comme cela est défini.
Est-ce que vous cherchez à convaincre vos confrères de laisser de la place à ces médecines alternatives à l'hôpital?
Avec Denis Laurence, on a mis sur pied un diplôme interuniversitaire de mésothérapie dans les villes de Bordeaux, Marseille, Dijon, Paris, Rennes. Bon, et il a fallu évidemment en convaincre. Et un bon nombre de professeurs, chefs de service, ont parfaitement compris l'intérêt de ces thérapeutiques. Mais il faut les expliquer, parce qu'elles ne sont pas très bien connues, parce qu'elles ne sont pas bien enseignées dans le cursus normal des étudiants en médecine.
Alors vous l'avez dit, hein, dans ces médecines alternatives, vous utilisez la mésothérapie. Est-ce que vous en utilisez d'autres ?
Nous, on utilise des thérapeutiques manuelles, qui sont aussi des thérapeutiques alternatives. Alors il y en a qui sont bien définies dans le cadre des traitements physiques, comme les manipulations vertébrales. Mais on utilise aussi très largement l'ostéopathie, qui est une thérapeutique manuelle, qui n'est pas bien établie comme les manipulations.
Vous avez accepté de participer à ces assises qui se déroulent à la fin de la semaine. Pourquoi, justement ?
Parce que j'ai été très fortement intéressé par les résultats obtenus dans le service où je travaille, par la mésothérapie. Bien sûr, 80% sont des maladies fonctionnelles, mais de toute façon, elles sont améliorées dans leur souffrance. Et puis 20% sont des maladies organiques qu'on améliore également par ces techniques.
Docteur Meyer Sabah, pour vous, c'est très important que des médecins hospitaliers, je dirais, vous soutiennent dans votre démarche?
C'est essentiel, c'est plus qu'important, c'est essentiel, puisque c'est le message qu'on va faire passer. Et ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, beaucoup de choses se passent, se sont passées et vont se passer. Mais ce qui est important dans le Polmo, c'est de regrouper toutes ces bonnes volontés, tous ces acquis, toutes ces avancées que l'on a faites. Et pour l'instant, on n'arrivait pas à convaincre ni les caisses de sécurité sociale, ni les pouvoirs publics. Ce qui nous permettrait, en nous groupant, d'avoir plus d'impact, de faciliter cet accès aux soins MOST, puisque actuellement, et on en parlera peut-être, mais il y a un vrai problème d'accès en dehors de l'hôpital à ces soins MOST. Ces soins MOST, finalement, représentent pratiquement 67% de la population. Donc, des études ont été faites par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Une première, je crois, en 2000.
C'est ça, ce qu'on dit, c'est qu'à peu près les deux tiers de la population y a régulièrement recours.
Tout à fait. Donc, deux tiers de la population utilisent ou occasionnellement ou exclusivement ce style de médecine pour se soigner. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un véritable déni sanitaire aujourd'hui, c'est qu'on n'en tient absolument pas compte. Notre but est de regrouper toutes ces forces et de faire valoir les droits de ces 67% de Français.
Professeur Périgaud, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr. Au moins pour la mésothérapie, que je suis bien depuis le tout début, il y a un problème de remboursement des actes. Bon, et pour ce problème de remboursement des actes, il y a un frein énorme des organismes qui sont à l'origine du remboursement de ces actes thérapeutiques et médicaux.
Professeur Périgaud, est-ce que vous soutenez, je dirais, l'ensemble de ces médecines alternatives ou il y en a qui vous laissent plus dubitatives ?
Non, moi j'ai bien regardé l'homéopathie, la phytothérapie, l'acupuncture. Non, le problème des médecines alternatives, c'est le problème de la médecine en général. Il faut qu'elle soit contrôlée par un certain nombre d'instances. Et ici, MOST, il y a quand même une instance de qualité. Et puis, il faut qu'un enseignement bien clair soit diffusé, soit reconnu.
Pour qu'il y ait un véritable diplôme et que le patient s'y retrouve aussi, j'imagine.
Oui, et puis pour faire front à la médecine classique.
Professeur Michel Périgaud, merci. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons donc dans Priorité Santé des médecines alternatives avec le docteur Meyer Sabah et le docteur Alain Collongeau. Docteur Meyer Sabah, c'est un peu vrai ce que vient de dire le professeur Périgaud. Il faut faire front en face de la médecine classique. C'est un peu vrai, ça ?
Oui, j'ai un petit peu sourcillé, comme vous l'avez vu. Oui, dans le sens où on fait front quand on se sent agressé, effectivement. Il faut que l'on reste soudé pour effectivement éviter de pouvoir compter. Il faut qu'on puisse pouvoir compter actuellement. Nous sommes attaqués, nous avons défendu des médecins devant les instances ordinaires, nous avons défendu des médecins devant les caisses de sécurité sociale, nous nous organisons. Dans ce sens-là, oui, il faut faire front. Il faut faire front pour effectivement ne pas subir ces attaques. Mais autrement, je pense que la médecine est une et indivisible. Pour moi, sur ma plaque, je n'ai absolument aucun de mes diplômes, à part celui de médecin. Et donc sur ma plaque, il est marqué omnipraticien.
C'est simplement ça. Donc médecin...
Omnipraticien,
pas généraliste. Voilà, qu'en est-il pour vous, docteur Alain Collongeau ?
Voilà, je crois que c'est tout à fait ça. Il faut faire front, mais on est bien d'accord. Il ne faut pas faire front d'une façon agressive. Il faut faire front pour être avec. Et le problème de ces thérapeutiques-là, à l'heure actuelle, on parlait de l'hôpital, mais ce n'est pas qu'à l'hôpital, c'est en ville aussi. Elles sont un petit peu absentes, elles ne sont plus visibles. Donc il faut donner de la visibilité à ces thérapeutiques, il faut les introduire dans le système de santé. Elles n'y ont pas leur place.
Vous parliez tout à l'heure de la question du remboursement. En France, on sait que quand on va chez le médecin, on a un remboursement. On n'est pas du tout remboursé d'ailleurs à 100%, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. Qu'est-ce qui se passe si on vient vous voir, docteur Alain Collongeau, et qu'on a une consultation en homéopathie ? On a aussi un système de remboursement ou pas ?
On a aussi un système de remboursement. Les homéopathes, donc pour nous en tout cas, dans notre pays, et ceux que nous soutenons sont médecins, donc ils sont remboursés sur la base du tarif opposable, c'est-à-dire à l'heure actuelle 22 euros. Alors à côté de ça, il y a des médecins qui essaient...
Mais vous faites payer, j'imagine, plus.
À titre personnel, oui. Mais le fond du problème est que le secteur 2, donc qui permet de faire un dépassement, a disparu depuis de nombreuses années. Ce qui fait que tous les jeunes confrères qui s'intéressent à ce type de thérapeutique n'ont pas droit à des dépassements. Pratiquer une thérapeutique MOST de qualité en prenant son temps, en faisant vraiment du bon travail, en allant au fond du problème, à 22 euros, une consultation qui va durer une demi-heure ou trois quarts d'heure, c'est quand même extrêmement compliqué. Ça fait partie du problème incontestable.
Docteur Meyer Sabah, en créant ce pôle MOST, vous rajoutez un terme encore différent. On parlait de médecine douce, médecine alternative. On trouve encore un autre terme. On ne va pas s'y perdre un peu, nous, patients.
Ce terme de pôle MOST, en fait, a été créé suite à la réflexion de la commission MEP, mode d'exercice particulier, puisque c'est la dénomination que les caisses de sécurité sociale nous ont donnée en 78, je crois. Ce terme de mode d'exercice particulier ne veut rien dire, est impropre, puisqu'il n'y a aucun exercice qui est particulier. Il faut savoir que ce terme de MEP, que tout le monde finalement
utilise. Enfin, que tout le monde utilise dans le milieu
dans le monde médical.
Voilà,
parce que
je veux dire, dans le grand public.
Nous sommes répertoriés dans les cas de sécurité sociale en tant que MEP, et tout le monde parlait de MEP aux élections.
Mais alors là, vous avez trouvé poste. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux?
Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux parce que MEP regroupait aussi bien des médecins acupuncteurs que des de médecine légale. Il regroupait des médecins du sport et des médecins homéopathes. Ça ne voulait rien dire. C'était une espèce de fourre-tout. On ne pouvait rien discerner et on ne pouvait pas effectivement rendre quelque chose de cohérent. Nous avons maintenant un groupe cohérent. Nous avons réfléchi une bonne année pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire qu'il y ait une cohésion dans cet ensemble de thérapeutiques. Et effectivement, la spécificité thérapeutique, puisque c'est la seule chose qui nous regroupe et qui nous soude, nous avons une spécificité thérapeutique après avoir fait une démarche de médecin généraliste. Et du coup, le groupe devient très cohérent, non pas que nos amis angiologues ou médecins du sport ou médecins aéronautiques n'aient pas leur lettre de noblesse, mais nous n'avons rien à voir dans nos pratiques. Ce ne sont pas du tout les mêmes pratiques. Donc nous étions assimilés. Et maintenant, nous avons un groupe cohérent. D'ailleurs, on le voit, en un an, on pourra en discuter, on en parler peut-être plus tard. Nous avons fait d'énormes progrès. Nous avons avancé en un an plus qu'en 30 ans.
Alors justement, racontez-nous ce que vous avez fait en un an.
Alors en un an, nous avons déjà fait nos premières assises qui ont réuni pratiquement 350 personnes. Ce qui est encore plus important, c'est qu'en à peu près 4 mois, nous avons réussi à regrouper la quasi-totalité des structures qui composent ce petit monde. D'une part, les médecins, c'est pour ça que c'est Paul Most. Nous avons d'abord fait une fédération associative des Most, donc qui regroupait que des médecins. C'est-à-dire qu'on a regroupé les associations de formation, les associations savantes, les syndicats, etc.
Mais ça, c'était le côté médecin.
C'était le côté médecin, mais qui a très vite été en fait sollicité par les patients. Les associations de patients étaient tout à fait prêtes. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons 7 associations de patients qui représentent pratiquement plus de 10 000 utilisateurs de médecine dite alternative.
Donc il y a des associations de patients, des médecins?
Des associations et des payeurs. Des complémentaires de santé sont venus nous rejoindre et ont voulu aussi être parmi nous. Nous avons adapté les statuts et nous avons fait tout ça très rapidement pour qu'il y ait effectivement ces 3 secteurs qui soient présents. Et d'ailleurs, nous sommes en travail avec eux pour les complémentaires de santé pour proposer un contrat dédié pour ce style de thérapeutique.
Docteur Alain Collongeau, votre bataille, elle n'est pas aussi que ce soit la sécurité sociale dans ces cas-là qui rembourse, parce qu'on sait bien que les complémentaires santé, bah, tout dépend si on a les moyens de s'offrir une bonne complémentaire ou
alors,
pas.
Ça, c'est dans un deuxième temps, si vous
Docteur
permettez,
je vais répondre.
Voilà, excusez-moi, parce que j'ai plus étudié le dossier. Dans un premier temps, ce qu'il faut d'abord, c'est permettre la survie de ces techniques. Donc dans un premier temps, c'est l'instinct de survie qui prime. Ça veut dire qu'il faut organiser pour que les médecins puissent continuer d'exercer ça. Démographie médicale. S'il n'y a pas d'acupuncteur, quoi que l'on fasse, même en les remboursant, il n'y aura plus d'acupuncture. Pour leur permettre d'exercer, il faut qu'ils puissent exercer à un niveau correct de tarif horaire. Je dis bien de tarif horaire, c'est là où c'est important. Il va falloir faire passer la notion de tarif horaire. On passe un certain temps avec les patients et ce temps doit être normalement payé. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'on va arriver effectivement à permettre. Ça ne nous pose pas de problème, le docteur Collongeau et moi, parce que nous sommes en secteur 2. Donc je voulais revenir dessus.
Vous avez le droit des dépassements.
On a le droit des dépassements, on n'a aucun souci. Une fois qu'on aura obtenu effectivement cette mutuelle, ce complémentaire de santé, un remboursement possible. Je dis bien remboursement possible, non seulement pour les médecins, puisque nous avons des consultations, il faut les indemniser, mais quand nous faisons des prescriptions, notamment de phytothérapie, ils ne peuvent plus y accéder non plus. Donc il y a un deuxième frein qui est quand ils ont la prescription, ils ne peuvent plus payer. Donc il faut pouvoir donc rembourser ces prescriptions. Après, qu'est-ce qu'il reste? D'après les dernières statistiques, il y a 7% de la population française actuellement qui ne peut pas avoir une complémentaire de santé.
Et sans compter tous ceux qui en ont une qui est moyennement efficace.
Alors justement, il y en a qui sont moyennement efficaces. La mutuelle, la complémentaire de santé, sans dévoiler trop de choses, comme l'a dit Dr Collongeau, avec qui on est en train de travailler, va proposer quelque chose de tout à fait correct. Donc effectivement, si on proposait un remboursement avec des tarifs, des cotisations énormes, ça ne serait pas viable, ça ne voudrait rien dire. Nous allons rester dans la moyenne, et c'est là la performance, c'est que la complémentaire de santé avec qui on travaille croit dans ces techniques, a certainement des chiffres, parce que, vous savez, c'est une entreprise, et c'est que nos soins, pour le moins, vont coûter sinon moins cher, mais du moins pas plus cher, même en nous payant un peu plus. Les 7% qui vont rester des complémentaires de santé, et là, je reviens vers des médecins qui seraient bien payés, qui ne sont pas en train de courir actuellement après les actes, ça sera épongé par la déontologie médicale, qui a toujours eu lieu, qui a toujours existé chez les médecins, et on pourra s'occuper de ces 7% qui est...
C'est-à-dire concrètement comment? Les soignant gratuitement?
Mais tout à fait. Ouais. Mais tout le monde, tous les médecins actuellement soignent les patients gratuitement. On ne peut pas soigner tout le monde gratuitement, c'est ça le problème. Actuellement, effectivement, s'il fallait qu'on soigne 80% de la population en prenant 22 euros, l'entreprise médicale, parce que c'est une entreprise, nous sommes libérale, coulerait aussitôt. Par contre, s'il n'y a plus que 7%, c'est tout à fait assimilable par la déontologie médicale. Nous pouvons l'absorber, nous l'avons toujours fait auparavant, nous le ferons. Et c'est là où je voudrais revenir aussi à quelque chose de plus général, à la médecine libérale qui est en train d'être assassinée actuellement. Je pense que les MOST sont actuellement l'avenir de la médecine libérale. Ça sera, j'espère qu'on pourra relancer la vraie médecine libérale et non pas une médecine étatisée, une médecine de caisse qui n'a plus rien de libéral par les MOST. Ça va permettre effectivement, d'une part, de redonner à des honoraires décents médecins qui pourront appliquer effectivement les techniques qu'ils ont envie de prendre leur temps avec les patients. Dans un deuxième temps, il y aura un mouvement sociétal peut-être à faire, donc un mouvement, une décision politique. Quand 67% de la population l'utilise, eh bien, il faudra faire valoir effectivement le slogan « à cotisation égale, remboursement égal ». Entre-temps, j'espère qu'on aura prouvé que nous ne coûtons pas au moins plus cher et même certainement un peu moins cher par nos actions.
C'est-à-dire que vous considérez que les patients vont moins souvent chez le médecin quand ils utilisent entre autres ces médecines dites alternatives?
Ils sont en meilleure santé.
Soignant la santé. Est-ce que vous êtes quand même d'accord que du côté des patients, on a du mal, je dirais, à vous plaindre. On a du mal à plaindre la profession des médecins, à penser que vous n'arrivez pas à en vivre. C'est un message qu'on peut avoir du mal à entendre.
Oui, je le conçois, mais peut-être parce qu'il y a déjà effectivement des antécédents, se réfèrent souvent aux notables médecins d'il y a quelques dizaines d'années. On se réfère peut-être à d'autres spécialités médicales que je ne tiens surtout pas à citer, qui effectivement gagnent bien leur vie.
Vous voulez dire les spécialistes, un certain nombre de spécialistes?
Un certain nombre de spécialistes qui gagnent effectivement bien leur vie, mais c'est très bien, je veux dire, ils la gagnent correctement. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, nous sommes pour la plupart à Bac plus 12 ou Bac plus 15. J'aimerais bien qu'on nous compare à Bac plus 12, à Bac plus 15, même ceux qui gagnent soi-disant bien leur vie chez nous. Il y a quand même une responsabilité que nous avons, des études qui sont très longues. Nous n'arrêtons pas personnellement mes heures de travail par semaine, c'est 3 chiffres. Ce n'est pas 2, donc on va sur 3 chiffres. Donc c'est énormément de travail et beaucoup, beaucoup d'études et beaucoup, effectivement, d'implications que l'on met dedans. Donc si l'on résume, je vais voir, allez, tant pis pour les avocats, vous allez voir un avocat, vous lui demandez le tarif horaire, il est facilement à 200, 250, 300 euros actuellement. Alors c'est vrai que le corps médical...
Ouais, vous ne travaillez pas sur la même question, vous travaillez sur des questions de santé, je ne sais pas si on peut comparer avec le métier d'avocat.
Je parle d'une année d'études.
C'est pas tout à fait la même chose.
Je parle d'une étude, mais je peux parler... Peut-être, mais ce... Je vais peut-être intervenir.
Docteur Alain Collongeon, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, mais vous savez, moi je ne souhaite pas être plein. Ce n'est pas ça le problème. Ce qu'on souhaite, c'est que les patients soient bien soignés, que l'entreprise médicale soit viable et que le médecin soit correctement honoré. Je crois que l'intérêt du tarif horaire dont parlait le docteur Sabat, il est exactement là. Moi je veux bien qu'on parle dessous. 3/4 de consultation, 22 euros la consultation. À l'arrivée, il reste un tiers ou 45%. Faites le compte. Je ne suis pas sûr que ce soit quand même si extraordinaire que ça.
Vous recevez pendant 45 minutes ?
Entre 30 et 45 minutes, quand on fait ce type de thérapeutique, on est tout à fait d'accord.
Et est-ce que vous avez des patients qui se plaignent quand même du tarif de consultation ou finalement pas tant que ça,
hein? Ben, honnêtement, non.
À partir du moment où ils reviennent.
Priorité santé, Claire Hédon.
Nous terminons cette émission en parlant du rôle que joue l'entourage des personnes malades et nous avons au téléphone Thierry Calvin. Thierry Calvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de la Fondation Novartis et vous organisez mercredi, ce mercredi 7 avril, des assises de la proximologie. C'est quoi ce terme ?
Alors, la proximologie est un territoire de recherche et d'action qui est dédié à l'entourage de la personne malade ou dépendante. Et c'est une approche qui est en fait une approche pluridisciplinaire dont l'objectif est mieux comprendre les liens qui unissent à la fois le malade et son proche. Et derrière ces recherches qui sont menées, l'idée de mieux appréhender les besoins, les attentes de la personne proche de la personne malade, afin de faire de lui un meilleur allié dans le soin.
Les assises, cette année, sont consacrées sur un thème qui est la place de cet entourage dans le système de santé. Alors justement, quelle est sa place ?
il est très peu présent à la fois dans le système de santé et plus globalement dans la société dans son ensemble. Et néanmoins, c'est une place dont on sait qu'elle va aller grandissant, puisqu'il y a plusieurs raisons pour ça, hein, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance de plus en plus grande de la place des proches. Il y a un aspect démographique évident, qui est que la démographie joue contre nous. On est face à un vieillissement, je ne vais rien vous apprendre, qui est un vieillissement de population qui est assez inédit et qui fait augmenter le nombre de pathologies et le nombre de maladies. Ces maladies sont en nous de plus en plus chroniques et on rentre dans des prises en charge de ces maladies qui sont plus longues, plus durables, et elles arrivent précisément au moment où les dépenses de santé sont quand même, se situent aujourd'hui dans un climat qui est assez tendu. On est quand même plutôt sur des économies en termes de dépenses de santé, et où parallèlement la démographie médicale, c'est-à-dire le nombre de médecins, de soignants en charge et en capacité surtout de pouvoir prendre ces malades, va décroissant. Et de fait, on voit bien qu'à travers simplement ces deux exemples que je viens de donner, la place de la famille, la place du proche est de toute façon appelée à occuper, sinon aujourd'hui, mais du moins dans un futur qui est un futur très proche, une place de plus en plus grande. On sait par exemple aujourd'hui que quand on parle des aidants, des proches, on parle de plus de 3 millions de personnes.
Ça fait du monde.
Ça fait beaucoup de monde.
Et cet entourage, il est de plus en plus présent ou de moins en moins, comme on nous dit, on abandonne nos personnes âgées, on s'en occupe pas?
Alors écoutez, il est visiblement de plus en plus présent. Il y a un certain nombre de mythes, et afin de non pas de tuer ces mythes, mais en tout cas le fait de l'avoir constitué nous a permis de lever à jour un certain nombre d'idées reçues. On a monté au niveau de la Fondation Novartis un panel national des aidants familiaux qui finalement reconstitue, on l'a fait avec la société BVA, qui reconstitue et qui panélise ces 3 millions de personnes. Or, à l'observation, on s'aperçoit de deux choses qui ont un trait direct et un rapport direct avec votre question, qui est l'abandon finalement des personnes. C'est que le premier, c'est qu'aujourd'hui, un aidant sur cinq et n'a aucun lien de famille avec la personne qui l'accompagne. C'est généralement un ami ou un voisin, ce qui fait quand même un nombre considérable de personnes qui sont vraiment dans un don et dans une solidarité gratuite. Et par ailleurs, on observe aussi qu'il n'y a pas moins d'aide en ville qu'à la campagne, qui est une autre idée reçue, c'est qu'on considère généralement que dans les milieux ruraux, on est confronté
beaucoup plus solidaire.
Voilà, on est beaucoup plus solidaire.
Et ben, c'est pas si vrai que ça. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour mieux aider ces aidants?
Alors, les assises, justement, ont permis de mettre à jour un certain nombre d'orientations qui sont présentées et dévoilées donc le 7 avril, sans rentrer dans un détail.
Donc vous ne pouvez pas tout nous dire, mais vous pouvez nous dire un peu.
Je ne peux pas vous dire, mais par contre, je peux vous présenter quelques orientations, mais au moins planter le décor, et en tout cas les dimensions que ça interroge. Il y a une première dimension qui est assez rapidement apparue, qui est une dimension touchant à la préservation de l'aidant. On est aujourd'hui confronté à des familles qui aident, qui accompagnent, qui sont impliqués, qui sont parfois très fortement impliqués. Juste pour comprendre, dans la maladie de Parkinson, par exemple, c'est 8 heures par jour qui sont à consacrer à la personne malade. Donc on voit bien qu'on est face à des familles qui ont un risque réel d'épuisement et qu'aujourd'hui, une des premières demandes de ces familles, c'est et une des premières solutions aussi, c'est de pouvoir leur offrir des solutions qui les déchargent de leur fardeau, soit sous forme de centres de répit, d'établissements, mais aussi de personnel qui peuvent venir, comme par exemple, ça existe déjà au Québec, qui peuvent venir à domicile et faire ce qu'on appelle le baluchonnage. Ça, c'est un premier aspect qui est un aspect finalement de préservation. Il y a un deuxième aspect qui est plus lié là à l'efficacité de l'accompagnement. Ce que l'ensemble des professionnels de santé a souligné, c'est qu'aujourd'hui, le proche de la personne malade est un partenaire naturel du soin. Et en tant que partenaire naturel du soin, il doit normalement contribuer, et il peut normalement contribuer au fait que la personne se porte mieux. J'en veux juste pour preuve une étude qui est une étude Pixel qu'on a menée sur des conjoints de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. On y démontre qu'une bonne implication de l'entourage permet de reculer la mise en institution de la personne malade de 14 à 16 mois, ce qui est tout à fait considérable, et qui milite finalement pour donner aux professionnels de santé les moyens de mieux accompagner, de mieux soutenir finalement à travers notamment des suivis personnalisés de ces aidants, voire de mieux former les familles.
Et donc ce que vous cherchez à montrer aussi, c'est qu'il faut donc bien aider ces aidants.
Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut donc bien aider ces aidants. Et la troisième dimension qu'on fait aussi ressortir ces assises, c'est aujourd'hui la véritable invisibilité, ou en tout cas la quasi-invisibilité sociale des familles et des proches, qui sont généralement les grands absents du débat, y compris dans le monde du travail. Aujourd'hui, dans la population active, vous avez une personne sur 15 qui est à la fois un salarié et un aidant. On sait que d'ici une quinzaine d'années, ils seront 1 sur 6.
Et qu'ils ont besoin de temps.
Et on imagine assez facilement à quel point il est difficile, quand on est aidant, de concilier à la fois sa vie d'aidant, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et aujourd'hui, et notamment les assises seront l'occasion de pouvoir évoquer cette question, il y a de plus en plus de demandes, notamment auprès des acteurs du monde de l'entreprise.
Docteur Thierry Calva, merci. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fondation Novartis et que vous organisez ce mercredi des assises de la proximologie. Docteur Meyer, ça va, un mot de conclusion. Je rappelle donc que se déroulent en fin de semaine les deuxièmes assises des médecines à orientation spécifique thérapeutique. Et volontairement, vous avez fait cette rencontre à l'hôpital pour montrer que c'est sérieux. J'imagine que c'est ça.
On voulait effectivement prouver que nos lettres de noblesse étaient acquises. Nous allons avoir aussi beaucoup de scoops, entre guillemets, dont vous avez livré quelques-uns. Et il y aura une mutuelle dédiée qui va s'appeler MUST, qui va être mise au point pour l'utilisation des spécificités thérapeutiques, Nous aurons aussi, on va lancer quelque chose avec le docteur Halimi de l'ASF, donc l'Association Santé Environnement France, et nous allons lancer finalement un collège de médecine environnementale. Donc les MOST vont s'accaparer entre guillemets tout naturellement la médecine environnementale, puisque nous sommes tout particulièrement attachés. Nous aurons une liste de soutien médiatique au mouvement MOST. Nous allons créer un prix initiative aussi MOST, où des actions qui seraient nouvelles, de quelles qu'elles soient, seront récompensées de prix allant jusqu'à 1 000 euros chacune. Bon, il y aura trois prix que le jury, que le comité scientifique va aussi donc mettre au point. Et enfin, on va aussi lancer l'idée, puisque c'est pas abouti, c'est plus qu'une idée, puisqu'on est déjà pratiquement, on est bien avancé, une prise de participation dans les moyens thérapeutiques, dans le laboratoire pour les mésothérapeutes, pour qu'on puisse continuer à avoir nos molécules de mésothérapie qui sont en train de disparaître.
Docteur Meyer Sabat et docteur Alain Collongeon, merci. Demain, vous retrouverez Zéphirin Quadio pour parler de l'alimentation, et vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Au revoir à tous.